J'ai le plaisir d'accueillir Michel Aglietta, professeur à l'université de Paris-Nanterre et conseiller scientifique au CEPI, qui va nous parler d'innovation, intermédiation financière et crise. C'est un sujet qu'il connaît de l'intérieur et sur lequel je suis sûr qu'il nous apportera beaucoup d'éclaircissements. Je
passe la parole. Merci beaucoup. Oui, donc, je prends le thème important. De toute façon, je ne vais pas balayer des crises dans l'histoire. Je vais prendre évidemment la crise qui est de 2007-2008, crise dite des subprimes, qui a été la base d'un énorme éclatement de la finance, d'énormes difficultés de la finance, dont on a les séquelles en Europe actuellement et qui est très très loin d'être terminée dans ses répercussions. Donc une crise gigantesque, la plus importante depuis la Grande Dépression. Donc ça permet en effet de comprendre la dynamique de la finance, pourquoi elle va aux extrêmes, et montrer le rôle des innovations qui a été absolument crucial pendant toute cette période. Donc je dirais d'abord simplement des choses générales, peu de choses générales. Hein. Je veux dire que dans quel esprit théorique je travaille, c'est à l'encontre, si vous voulez, de l'hypothèse dite d'efficience des marchés financiers, dans une hypothèse qu'on peut appeler keynésienne-minskienne, c'est-à-dire dans lequel il y a une instabilité intrinsèque de la finance. Et cette instabilité intrinsèque de la finance est fondamentalement liée au rôle que joue la liquidité, donc la monnaie, dans le cadre de la dynamique financière. Oui, le problème, c'est bien ça. C'est la question que je pose là au départ. Pourquoi les acteurs de la finance, au lieu qu'il y ait des mécanismes d'auto-régulation, d'auto-ajustement, sont-ils emportés par l'anticipation de gains de plus en plus élevés sans que le fonctionnement des marchés vienne réguler ses comportements en engendrant des processus auto-stabilisants? C'est ça qu'il faut tenter de comprendre, puisque c'est ça qui s'est passé. Il y a eu une divergence massive, et cette divergence massive aboutissant à une crise globale, à une paralysie véritablement du système financier, qui s'est produite à son paroxysme en septembre-octobre 2008. Donc l'idée, c'est de dire que la finance, ce n'est pas la même chose que les autres marchés, si vous voulez. Les marchés de la finance ne sont pas la même chose que les marchés d'un bien utile quelconque. Parce que le but de la finance, véritablement, du point de vue de la logique financière pure, c'est de faire de l'argent avec l'argent. On est bien d'accord avec ça. Et le problème, c'est tout ce qui a été dit tout à l'heure sur la monnaie, la caractéristique de la monnaie, du fait que c'est le médium social général, et vous pouvez tout faire avec la monnaie, c'est que contrairement au désir d'objets qui ont des saturations, qui ont des utilités marginales décroissantes, le désir d'argent est totalement illimité. Et ceci, évidemment, change tout. Et c'est le premier élément important, si vous voulez, dans la motivation, dans les buts des acteurs économiques, dans la finance de marché. Le deuxième élément, c'est cette idée de crédit contre collatéral. C'est-à-dire on ne fait pas du crédit pour acheter des biens de consommation que l'on va utiliser, comme quand on achète une automobile. On fait du crédit contre collatéral, c'est-à-dire contre un actif qui est une richesse qu'on peut valoriser et revendre pour obtenir un gain d'argent par rapport à la mise qu'on a fait. Et ça, c'est très important parce que ça fait ce qu'on appelle le momentum des prix. Si tous les agents pensent que cet actif, un actif donné, donc ça a été l'immobilier dans les années, à partir du début des années 2000, ça peut être la bourse, ça peut être l'or, ça peut être une devise étrangère, ça peut être une matière première, tout ce qui peut, si vous voulez, donner lieu à un processus d'anticipation sur la hausse future du prix et qui peut être revendu, si vous voulez, donc qui est liquide de ce point de vue-là, qui va trouver des acheteurs et qui peut être revendu. Ça va être le collatéral du prêt, c'est-à-dire vous voulez, en tant que vous êtes un spéculateur, vous pensez qu'il y a un gain à faire par une anticipation de prix, ils vont monter ces prix sur tel et tel actif, mais soit vous avez de l'argent et vous mettez une mise dessus, c'est-à-dire votre propre capital, soit vous allez voir un banquier où on verra des pseudo-banques, qu'on appelle des shadow-banques, qui sont des acteurs financiers qui vous prêtent de l'argent. Et donc, c'est à crédit que vous faites cette opération d'achat. Bon, et donc, on va vous faire crédit. Dans quelles conditions? On va vous faire crédit si le banquier pense la même chose que vous. Puisque lui, il prendra ça comme collatéral, il prendra ça comme garantie. Et si jamais vous ne pouvez pas vous rembourser votre prêt, il se remboursera sur la valeur du collatéral s'il pense la même chose, que, c'est-à-dire que le prix de l'actif va monter. Et vous voyez, vous avez donc quelque chose de très particulier qui n'est pas du tout la même chose que normalement dans le cadre de l'offre et de la demande d'un marché des biens. Vous avez une corrélation positive entre l'offre et la demande. L'offre et la demande de crédit sont liées positivement puisqu'elles dépendent d'un même facteur qui est la hausse anticipée des prix d'actifs dès lors que cette anticipation devient un processus commun, que tout le monde anticipe la même chose. Et donc, c'est ça qui crée le momentum. Hein, c'est ça qui crée un processus qui va aux extrêmes. Et en effet, tant que vous avez là, et tant que le processus, si vous voulez, d'anticipation se fait, il n'y a aucune raison de trouver, on ne peut pas trouver des forces compensatoires, même si l'offre si la demande de crédit augmente, l'offre de crédit augmente en même temps, etc. Et vous avez ce processus de boule de neige. Et donc, l'idée, c'est la logique, si vous voulez, du cycle financier. Et de la crise comme un phénomène endogène du cycle financier. La crise va être le moment où la hausse du prix de l'actif va avoir un niveau tel qui va paraître aberrant ou que quelque chose se produit comme un effet catalyseur dans une réaction chimique qui fait, si vous voulez, provoquer le processus qui, en l'espèce, est l'éclatement de la bulle. Car dès lors que vous avez une bulle de prix d'actif, ça veut dire que les gains qui sont derrière sont imaginaires. Et à un moment donné, ce caractère imaginaire va apparaître et donc la bulle va éclater. Et à ce moment-là, on va révéler le fait que derrière ces crédits, il n'y a rien du tout. Et donc, le processus de panique va se faire. Hein. Ça, c'est la logique générale des bulles financières et des crises financières. L'historien américain Kindleberger montre que c'est ça depuis au moins le XVIIe siècle. N'est-ce pas ? Bon, ça, c'est le premier aspect. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est l'innovation financière par rapport à ça. Pourquoi, dans cette logique générale, ce qui s'est passé dans les années 2000 a été d'une force et d'une amplification incroyable et qui a provoqué, par conséquent, ce processus catastrophique qui s'est produit en 2008. Eh bien, il y a trois éléments que je m'en vais essayer d'évaluer avec, d'avancer avec vous et puis de les connecter pour montrer qu'on a un cycle financier qui a été amplifié manifestement par l'innovation. Le premier, c'est cette capacité d'une innovation récente, relativement récente malgré tout, pour ce qui est de sa généralisation, même s'il était connu déjà depuis plusieurs décennies. C'est ce qu'on appelle la titrisation. Transformer des crédits, et normalement un crédit au sens, si vous voulez, simple du terme, hein, c'est une relation bilatérale entre un prêteur et un emprunteur. Et le crédit reste dans les livres, dans le bilan du prêteur jusqu'à l'échéance. Quoi. Ça, c'est le crédit sans terme du terme. Là, ce n'est pas ça du tout, le type de crédit en question. C'est des crédits qui sont transformés en titres liquides. Et c'est là la chose importante. Ils sont transformés en titres financiers liquides. Ça, c'est la titrisation. C'est rendu possible grâce à ce qu'on a appelé le mark-to-market, c'est-à-dire une révolution dans la comptabilité, où la comptabilité devient dépendante complètement des valeurs des marchés financiers. Premier élément. Deuxième élément, le shadow banking. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit des prêts directs de banques commerciales à des emprunteurs, même prêts contre collatéral, ça allait aller beaucoup plus loin que ça. Vous avez un ensemble d'opérateurs financiers qu'on appelle les shadow banks. Donc, parmi les plus célèbres, vous avez les hedge funds, hein, des fonds d'investissement, ce qu'on appelle aussi des fonds de fonds, c'est-à-dire des fonds d'investissement qui investissent dans des hedge funds et dans des groupes de hedge funds, etc. Donc, il y a toute une floraison d'acteurs financiers qui sont très liés aux banques et très liés à ce qu'on appelle les banques d'affaires et qui constituent le shadow banking. Et ce shadow banking a joué un rôle très pondérant dans tout le processus d'expansion financière des années 2000. Et le troisième élément, c'est l'usage des produits dérivés, dont je vais vous montrer très rapidement, qu'ils permettent d'accroître énormément la dette, le levier d'endettement. Plus vous vous endettez pour acquérir des positions spéculatives, plus vous faites une pression, évidemment, sur le marché hein, de ces actifs, parce que au lieu d'avoir uniquement, encore une fois, vos ressources, vous allez prendre des positions avec un niveau beaucoup plus important de ressources, parce que la plupart est emprunté. Et le mode d'emprunt, on a trouvé des modes d'emprunt formidables incorporés aux produits dérivés. Le produit dérivé a souvent un levier, si vous voulez, qui lui est totalement incorporé et qui apparaît pas comme simple pour des non-initiés. Donc là, simplement, uniquement ça pour vous indiquer à quel point quand je parle de divergence du crédit, c'est pas, si vous voulez, pour uniquement une métaphore. Vous voyez que là, vous avez le rapport entre la dette totale américaine sur le PIB. Dette totale veut dire dette totale de tous les agents, hein. Depuis 1952. Et vous voyez que jusqu'au milieu des années 80, vous avez un rapport dette sur PIB assez stable. Si vous voulez. Il monte dans les années 50 parce qu'après-guerre, la guerre avait créé, si vous voulez, ils ont des grosses difficultés au système financier. Il s'est reconstitué après la guerre. Mais vous voyez, pendant la période de grande croissance des années 60 et jusqu'au milieu des années 80, vous avez une stabilité remarquable, hein, complète de ce rapport. Et après, tout change. Tout change avec l'innovation financière. Une première vague de hausse, c'est les années 80, et en effet, il y a là des spéculations considérables. Vous avez ce qu'on appelle les junk bonds à cette époque, c'est-à-dire des titres qui sont émis, très spéculatifs, très dangereux, si vous voulez. Hein. C'est pour ça qu'on les appelle junk bonds, hein, obligations de pacotille ou obligations pourries, suivant la traduction vous voulez voir, mais qui sont servis à financer des fusions-acquisitions d'entreprises. Et il y a eu un processus spéculatif sur les cours boursiers du fait des fusions-acquisitions. Et une crise bancaire, évidemment, s'est produite, d'ailleurs. En même temps, l'immobilier s'est développé, a commencé à se développer de manière énorme en cette période. Première crise bancaire, à la fin des années 80, sur l'ensemble des caisses d'épargne américaines. Et une de ces banques d'affaires qui était véritablement dominante dans le domaine de ces junk bonds, qui s'appelait Drexel Burnham Lambert, un peu comme elle a été ensuite Bear Stearns et Lehman Brothers. Une des banques d'affaires a disparu. Et le principal, si vous voulez, concepteur de la... On a parlé tout à l'heure de l'escroquerie. En effet, le principal concepteur, qui s'appelait Mike Milken, qui était le partenaire principal de cette banque, concepteur des junk bonds, a été condamné pour escroquerie et a été emprisonné sur 10 ans, finalement, avec tout un ensemble de rachats de trucs. Il a fait que 2 ans, mais enfin, il a été condamné, si vous voulez. Donc, il y a de l'escroquerie qui va avec, hein. Ça, c'est exact. Vous voyez qu'après, il y a une stabilisation qui se fait, et c'est bien à partir de 97-98. Alors, pourquoi on a mis troisième trimestre 97? C'est très exactement le moment de la crise asiatique. La crise asiatique a changé très profondément les relations internationales. Les capitaux qui s'étaient investis dans les années 90, notamment en Asie, ont reflué dans les pays développés. Hein. Les capitaux américains qui s'étaient investis à l'étranger sont revenus. Et vous avez donc une masse énorme de capitaux qui sont arrivés sur les marchés. Et ça a lancé le processus. Et en même temps, en 98, vous avez le début des dérivés de crédit. Et vous avez tous les processus d'innovation qui est là. Donc là, vous voyez véritablement que le processus, vous voyez, est explosif. Hein. Vous avez une concavité qui montre que vous avez une accélération permanente jusqu'à la crise. Donc c'est pas du tout, comme je vous disais, un processus d'ajustement et d'équilibre qui bouge. Hein. Vous avez une accélération massive du crédit et puis qui s'écrase contre un mur, en quelque sorte. Hein. C'est comme si vous lanciez une voiture à toute vitesse et qui s'écrase contre un mur. Hein. C'est la crise, c'est ça. Bon. Alors là, c'est pour illustrer ce que je vous disais. Si l'offre et la demande de crédit sont corrélées, parce qu'elles sont tous deux fonction de l'anticipation du hausse des prix d'actifs, ce type de crédit-là, évidemment, tous les crédits ne sont pas comme ça, eh bien, vous voyez que quand la demande de crédit augmente, parce que vous avez de plus en plus d'acheteurs qui arrivent dans le marché pour participer à la spéculation, puisqu'ils voient la hausse du prix de l'actif, hein, ils disent « pourquoi pas moi ?», eh bien, l'offre de crédit fait la même chose, elle augmente en même temps, parce que les banques se disent, ben, on a vraiment tout intérêt à prêter, on pense la même chose que les demandeurs. Et vous voyez qu'à ce conséquence, le taux d'intérêt n'augmente pas. Puisque normalement, si la demande de crédit devient forte pour une offre de crédit donnée, le taux d'intérêt doit augmenter et vous avez à ce moment-là une force de rappel. Mais si l'offre de crédit augmente en même temps, le taux d'intérêt n'augmente pas. Et en conséquence, le processus peut se poursuivre, vous voyez, par une dérive vers la droite du point d'équilibre de crédit en permanence. Voilà, ça c'était un peu ces généralités. Donc maintenant, regardons plus à fond ce qui se passe pratiquement dans le cas de cette crise-là. Hein. Tout ce que je viens de dire est une caractéristique de toutes les logiques de cycle financier. Titrisation, effet de levier. Alors, c'est là, je vous donne justement la différence entre ces deux modèles de crédit. Sur la gauche, vous avez le modèle de crédit standard. à la papa, comme on pourrait dire. Hein. Une banque a des emprunteurs autour de lui, des entreprises, des PME qu'il connaît, plus ou moins, qui leur demande des prêts pour leurs affaires, hein, pour développer leur business, et il fait crédit. Hein. Donc, ça veut dire qu'on initie le crédit, en effet, il faut bien que la banque décide d'offrir le crédit, mais elle porte le risque. Elle porte le risque jusqu'à l'échéance du prêt. Puis si le prêt est remboursé en fonction des revenus, c'est bon, hein, elle fait des affaires, sinon elle peut faire des pertes. Et les pertes sont pour elle, hein, pour cette banque. L'autre côté, ce n'est pas ça du tout. On initie le crédit, il y a bien des gens qui vont démarcher des emprunteurs. Soit des emprunteurs viennent vers eux, mais ils peuvent aller démarcher eux-mêmes les emprunteurs. Hein. Mais ils savent qu'ils vont vendre le crédit contre une commission. Les vendre, à, on va voir à qui. À ceux qui vont faire la titrisation, c'est-à-dire à des banques d'affaires comme Goldman Sachs, par exemple. Hein. Donc, vous voyez que vous n'avez pas le même comportement. Si vous êtes rémunéré non pas par le profit que vous faites par une bonne évaluation du risque, mais vous êtes rémunéré uniquement par une commission que vous touchez parce que vous avez fait signer un contrat à un emprunteur, qui est un ménage, qui veut acheter un logement. Et donc, il y a ce qu'on a vu apparaître de manière très extrêmement massive. Vous avez à la racine de ça, s'il n'y a pas une régulation, et il n'y en avait aucune sur ces produits-là, une incitation à la sous-évaluation du risque. Et je vais vous montrer à quel point il était sous-évalué en vous donnant des exemples de ce type de crédit. Donc, sous-évaluation du risque, puisque finalement, ce démarcheur, ce courtier en crédit, si vous voulez, hein, c'est plus une banque, c'est un courtier en crédit, il va être rémunéré sur le volume des affaires, puisqu'il touche une commission fixe sur chaque affaire. Et il revend tout de suite le crédit à des banques d'affaires qui vont faire le processus de titrisation. Donc, vous voyez que là, c'est très important. Et la sous-évaluation du risque a été massive. Hein. Et donc, ça crée évidemment un premier élément important. Alors, vous pouvez me dire pourquoi ceux qui vont porter le risque ne vont pas contrôler ça, finalement, et s'opposer à cette sous-évaluation. Ben, ils sont au courant de rien. C'est-à-dire que vous allez voir, la chaîne, si vous voulez, des transferts de risques qui va se faire entraîne une déperdition d'informations massives au fur et à mesure où elle se fait. Et le porteur final de risque, qui peut être une compagnie d'assurance, un fonds de pension, qui peut être dans un pays complètement étranger aux États-Unis, en Californie, mettons, où se fait le crédit. Il n'a absolument aucune idée de l'emprunteur initial, du crédit initial et des conditions dans lesquelles le crédit a été fait. Donc, vous avez ce processus que les anglo-saxons appellent « risk shifting », transfert de risque, crée une déperdition d'informations systématiques et au bout du compte, ceux qui le portent, eh bien, ils le font en croyant ce que leur racontent les agences de notation, tout simplement. Mais même pas sur le crédit initial, sur le titre auquel, on va voir, on aboutit. Donc, ce processus conduit à des chaînes de plus en plus complexes de transferts, au fait que des pertes d'informations se font à chaque étape de la chaîne et au fait, par conséquent, que tout est prêt, évidemment, pour créer un mécanisme de fragilité financière. Voilà, prenez un exemple ici. Hein. C'est pas un exemple, si vous voulez, c'est une statistique dessus. Sur ces crédits subprime, les facteurs de risque qu'il y avait et que vous ne trouverez pas sur des crédits immobiliers normaux. Premièrement, un intérêt seulement, c'est-à-dire qu'on vous ne demande pas de rembourser progressivement, vous devez vous rembourser tout à la fin et vous ne payez que les intérêts. Pourquoi ? Ben, parce qu'on dit, ben, puisque de toute manière, ce qui compte, c'est je me fiche du revenu, dit celui qui fait crédit, je me fiche du revenu de cet emprunteur. Ce qui compte, c'est la valeur de son patrimoine qui va être le logement qu'il va acquérir. Comme le prix immobilier va monter, hein, c'est vraiment ça qui est à la clé de tout. C'est ces anticipations, si vous voulez, qui sont faites dans les marchés. Eh bien, ça me suffit de lui prêter qu'il me rembourse à la fin. Puis, s'il ne me rembourse pas, ben, je saisirai son bien, puis c'est terminé. Deuxième élément, pas d'apport personnel. Vous voyez à quel point, quand je vous disais qu'on ne regardait pas trop ce qui se passait, chez nous, on ne fait pas de crédit sans apport personnel en France. Hein. 38%, c'est quand même pas n'importe quoi, 38% des crédits subprime étaient faits sans apport personnel du tout, c'est-à-dire 100% crédit, 100% de la valeur du bien acheté. Et vous voyez, pas de documentation sur le revenu de l'emprunteur. Hein, quand je vous disais que ça se faisait absolument pas en regardant, c'est l'opposé du crédit habituel, quand vous regardez quand même, si vous voulez un crédit pour acheter une automobile, ben on va regarder vos revenus, vos feuilles de salaire, etc., quand une banque le fait normalement. Là, zéro. Hein, on demandait absolument pas de documentation, et en fait, on pressait les ménages pour qu'ils signent véritablement les emprunts. Ce qui compte, c'était faire le maximum de volume. Hein, d'emprunt subprime. Et le risque. Alors, le reset, c'est important parce que c'est une manière de piéger les gens. Vous voyez ce que vous trouvez dans le tableau du bas. Donc, 2,28, ça veut dire crédit de 30 ans, 2 ans à bas taux d'intérêt, puis le reset, c'est-à-dire le redéfinition du paiement, hein, du taux d'intérêt du paiement, pour 28 ans. Et vous voyez que ça crée un choc formidable sur les revenus, hein, puisque vous voyez qu'initialement, on prend cet exemple, ça c'était en Angleterre, mais c'est pareil aux États-Unis, c'était le même type de crédit. Hein, vous avez 200 000 livres sterling, je crois que c'était en dollars, c'est une erreur que j'ai faite. 200 000 dollars, hein, pour acheter un logement. Vous voyez que vous avez un paiement mensuel de 1347 pendant 24 mois. Et puis, ça saute, suivant qui est plafond ou pas plafond au reset, ça saute à 1661 ou 1882. Vous avez tout d'un coup une hausse de 23% ou 40% d'augmentation du paiement à faire chaque mois. Et ensuite, jusqu'au bout, pendant les 30 ans.
Est-ce que ce que tu lis, est-ce que tu es ici, la même chose?
Oui, plus 23 et plus 40, hein, c'est ça. Ah oui, c'est forcément la même chose, puisque je suis sûr. Donc, la dynamique des... Alors, ouais, j'en dis un peu plus. On arrive... Donc, oui, vous commencez à comprendre pourquoi on a un déséquilibre, si vous voulez, un déséquilibre cumulatif qui va se faire. Donc, allons un peu plus à fond, et puis après, on va rentrer en la titrisation proprement dite. Hein. Pourquoi il y a donc ce cercle d'environnement offert? Donc, je reprends la limite. C'est si les prix des actifs augmentent, un certain nombre de gens veulent acheter ces actifs. Ils anticipent que le prix va continuer à augmenter. Donc, ils vont devenir riches, plus riches par la valeur de leur patrimoine, qui gonfle en valeur. Hein. Plus riches que la dette. Le prix des actifs va augmenter plus vite, évidemment. Ils font une dette, puis ensuite, le prix des actifs continue à augmenter. Ils ont fait une dette une fois, puis après, ça continue dans l'anticipation. Donc, le rapport richesse sur dette augmente. Pareil pour les banques, si vous voulez, qui font les crédits, car elles, c'est la valeur de leurs actions qui va augmenter. Ça veut dire que si on mesure la probabilité de défaut de l'emprunteur par rapport à sa richesse, elle baisse. Elle baisse. Puisqu'on ne regarde pas son flux de remboursement, on regarde le rapport richesse sur dette. C'est l'expression de la mesure du défaut en valeur de marché. Donc, si cette probabilité de défaut baisse, on a intérêt à emprunter plus et à en remettre une couche. Donc, le levier est fonction croissante d'une probabilité de défaut qui est mesurée de telle manière qu'elle apparaît baissée, même si en même temps, la dette croît par rapport aux revenus des emprunteurs. Mais c'est pas ça qu'on regarde. On regarde le rapport dette, ce qu'on appelle loan to value, dette sur richesse en valeur de marché, et ça, ça baisse. La dette baisse par rapport à la richesse en valeur de marché, même si la dette ne fait qu'augmenter, d'accord? Et donc, vous voyez que vous avez un cercle, en effet. Vous avez un cercle vicieux qui est là et qui va mener à la catastrophe. Alors, quels sont les acteurs, donc, du shadow banking? Les principaux acteurs du shadow banking, on va montrer qu'ils sont très imbriqués ensemble et qu'ils forment véritablement système. Les principaux acteurs sont les grandes banques d'investissement, qui peuvent être en Europe des banques universelles dans leur composante investissement, qui sont aux États-Unis un peu séparées, mais qui sont bien connues. Hein, les grandes banques américaines, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank, etc., la Deutsche Bank, UBS, deux banques suisses, UBS, Crédit Suisse ont joué ce rôle très important. La Société Générale n'a pas beaucoup travaillé là-dessus, elle a surtout acheté des trucs. Et puis, c'est des banques anglaises, hein, des banques anglaises comme la Royal Bank of Scotland ou Barclays et la BNP. Donc, il y a une vingtaine de grandes banques, quoi, en quelque sorte, hein, qui sont véritablement les acteurs mondiaux sur ce marché qui est très concentré. Et les hedge funds, Alors on vous dit, il y a 8000 hedge funds, etc., mais c'est une vraie plaisanterie. Hein. Il y a 200 hedge funds qui comptent. L'industrie des hedge funds est extraordinairement concentrée. Il n'y a guère que 200 hedge funds qui comptent et qui sont liés à ces 20 prime brokers. Alors prime broker, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les banques qui donnent aux hedge funds tous les services qu'il faut pour leur permettre de se concentrer sur l'activité spéculative proprement dite. Hein. Et qui sont notamment le levier d'endettement, c'est-à-dire que ce sont les banques d'investissement qui leur procurent les services du levier qui leur permet d'augmenter leur position à risque. D'accord ? Donc ce lien hedge fund prime broker est absolument crucial, et ce n'est pas par hasard si, vous voyez, la banque Bear Stearns, qui a fait faillite avant Lehman Brothers, c'est-à-dire dès le printemps 2008, elle a fait faillite par ces hedge funds. C'est l'incapacité des hedge funds d'honorer leur levier dès lors qu'il y avait une inversion des prix de l'actif des actifs immobiliers et inversion des prix des actions qui allaient avec, qui a empêché le manque de liquidité qui découlait des remboursements à faire du hedge fund à la banque, a mis la banque en faillite elle-même. Donc ça veut dire que leur lien est extrêmement étroit. Alors, le rôle de l'effet de levier, je pense que vous avez bien compris, hein, je vous l'ai déjà dit, donc c'est pas la peine d'aller très loin. De plus, ça permet, le levier multiplie les gains que l'on fait sur une opération d'acquisition d'actifs si le coût du crédit est inférieur au rendement de l'actif. Hein, et à ce moment-là, vous avez intérêt à un levier, évidemment, hein, puisque vous gagnez plus par l'augmentation du rendement que vous avez sur plus d'actifs que vous achetez grâce au levier, hein, que le coût que vous payez. Donc vous faites un profit net. Mais le danger, c'est l'inverse. Hein, c'est-à-dire quand le prix des actifs, quand on s'est trompé et que le prix des actifs se retourne, à ce moment-là, la perte est évidemment amplifiée par l'importance du levier. La perte que vous faites, évidemment, mange votre capital, et c'est là que vous avez des acteurs financiers qui tombent en faillite, puisque si le levier est de 5, mettons, hein, là, vous voyez que vous pouvez, évidemment, s'il y a une baisse très forte du prix de l'actif que vous avez acheté de l'autre côté, vous allez très vite manger votre capital, hein, et vous avez eu des leviers de 30 et de 60. C'est pas 5 pour ce type d'opération. Donc, vous voyez le caractère, évidemment, ce qu'on appelle la fragilité financière est inscrite dans cette logique. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails techniques rapidement, mais vous voyez que le levier, il y a deux caractéristiques du levier moderne, justement, du fait de ces innovations financières. Un levier, disons, on pourrait dire standard, une banque fait du crédit à un hedge fund. Bon, c'est le levier de type standard. C'est le même que vous pourriez avoir, on pourrait dire. Sauf que c'est des lignes de crédit. C'est-à-dire, il dit, voilà, tel montant est disponible, vous pouvez tirer dessus comme vous voulez jusqu'à la limite du montant. Au lieu que ça soit un crédit spécifique, c'est une ligne de crédit permanente. Ce qui donne évidemment la flexibilité pour jouer des opportunités, hein, de la part de celui qui emprunte. Mais il y a du levier qui est incorporé au fameux produit dérivé. Et ça, c'est évidemment très important. C'est-à-dire, lorsqu'on utilise des options ou lorsqu'on utilise ce qu'on appelle des futures, c'est-à-dire des produits à terme, ce que demandent les organismes, si vous voulez, qui font la contrepartie de ça, c'est une prime ou une marge qui vous permet, donc si vous voulez, le flux de monnaie qu'il faut donner, hein, à cet acteur qui vous permet d'acheter un produit sur l'avenir, soit un produit optionnel, et vous pouvez avoir une position sur les actifs dits sous-jacents, c'est-à-dire sur les titres financiers ou sur les produits immobiliers, enfin sur tous les actifs dont on parle, qui a un multiple qui peut être très élevé de la prime que vous versez ou de la marge que vous versez, si vous voulez, aux organismes qui gèrent ces marchés dérivés. Et donc, c'est un levier incorporé. Le produit lui-même est introduit intrinsèquement un phénomène de levier. Ça, c'est évidemment important. Repurchase agreement, ça veut dire, vous voyez ce que vous faites. Si vous faites ça, vous avez des titres déjà. Vous les mettez en pension auprès d'une banque. En pension, ça veut dire pendant un temps donné. Vous dites, voilà, vous allez me donner le cash correspondant au titre que je mets chez vous. Mais ensuite, au bout d'un certain temps bien défini, je les récupère.
Ils restent dans le bilan de qui ?
de la banque ou dans celui d'un véhicule que la banque a créé. Hein. Pas nécessairement, parce qu'elles peuvent les sortir, si vous voulez, de leur bilan propre et passer en off-balance sheet, d'une certaine manière, c'est-à-dire dans des véhicules. Je vais vous montrer que les banques ont créé des véhicules pour ça. Vous voyez qu'avec ce cash, elle achète de nouveaux titres, hein, et par conséquent, si tout se passe bien après, c'est-à-dire s'il a bien anticipé le prix, au bout du compte, elle va obtenir le rendement, elle revend tous les titres, elle va revendre ce qu'il faut de titres pour rembourser la banque, elle récupère celles qui étant en repurchase, et puis voilà. De la même manière, les opérations de vente à découvert, on n'a pas beaucoup de temps, constituent des opérations qui ont un levier incorporé. C'est ça l'idée. Hein. C'est que le levier incorporé est beaucoup plus intéressant pour les opérateurs du shadow banking parce qu'ils ont très très peu de mise à mettre. Ils peuvent travailler avec très peu de capital par rapport aux demandes qui peuvent être posées de capital par rapport à un levier cash, c'est-à-dire un levier qui est directement un crédit ordinaire. Alors, titrisation. Donc, le levier, vous voyez comment ça a amplifié le levier. Toutes ces opérations financières, toutes ces innovations financières, pardon, l'importance qu'ont joué ces nouvelles entités, ce n'est pas des nouvelles entités, les hedge funds, ils datent, le premier a été fait en 47, mais jusqu'aux années 80, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et c'est surtout dans les années 2000 qu'ils se sont développés, parce que les grands investisseurs institutionnels se sont mis à investir dans ce type de véhicule, qui pour eux sont ce qu'ils appellent des classes d'actifs. Ils investissent dans des hedge funds au lieu d'investir directement dans des actions ou des obligations, hein, en disant les hedge funds m'ont donné un rendement supérieur. Donc ils font ça, ce qui veut dire que quand vous avez, alors qu'avant c'était uniquement des individus fortunés, des capitalistes qui investissaient dans des hedge funds, parce qu'il faut des mises de fonds qui peuvent être $1 million, etc., minimum, ce qui veut dire que tout un chacun ne peut pas investir individuellement dans des hedge funds, mais tout un chacun qui met son argent collectivement dans un fonds de pension, le fonds de pension investit dans le hedge fund. Et c'est comme si, finalement, eux investissaient dedans, si vous voulez, grâce au rôle des investisseurs institutionnels. Ce qui fait que les hedge funds ont eu une masse d'argent énorme dans les années 2000. Et pourquoi ils ont fait ça, ces investisseurs institutionnels? C'est que dans les années 2000, les taux d'intérêt sont bas. Il y a eu un éclatement d'une crise boursière importante, qui est la crise qui a été liée, si vous voulez, à l'éclatement de la bulle des produits aux technologies, hein, la bulle Internet en 2000. Donc, ils ne trouvaient plus de sources de rentabilité suffisantes. Ils en ont cherché, puis ils ont dit, ben, on va aller dans ces actifs dits alternatifs. Alors, la titrisation maintenant. Donc, comment peut-on transformer des crédits en titres financiers? Évidemment, c'est fantastique. Ça vous augmente la catégorie des actifs liquides, énorme. Avant, vous aviez ceux qui sont capables d'émettre des obligations sur leur nom propre. Hein, EDF pouvait le faire, c'est sûr. Mais un ménage ne peut pas émettre des obligations. Hein. Si les crédits peuvent être transformés en titres, la masse des titres financiers, par conséquent, qui peuvent être donnés lieu à transactions, achats, ventes, liquidations, devient gigantesque. Et c'est ça que c'est produit. Comment fait-on pour titriser? Vous voyez qu'il y a trois caractéristiques à cette opération. D'abord, le pooling. Le pooling, ça veut dire, rappelez-vous, mes fameux crédits subprime, individuellement, des ménages un peu partout aux États-Unis ou en Angleterre, etc. Une banque d'affaires achète ses crédits. Elle les met en pool, constitue un panier, en quelque sorte, hein, de crédits différents les uns des autres, a priori. Différents en ce sens que vous avez des ménages, on avait vu, ça peut être des ménages de revenus très différents, qui sont dans des régions très différentes, sauf qu'il y a quelque chose de commun. Tous dépendent d'un seul risque systématique, donc le risque spécifique, comme on dit, c'est-à-dire le risque qui est caractéristique du profil de l'emprunteur est différent. Et donc, ça, ils se frottent les mains, la banque d'affaires, elle dit, à ce moment-là, moi, le risque du panier, du fait que ces crédits sont indépendants les uns des autres, le risque du panier est beaucoup plus faible que le risque de chaque crédit séparément, puisqu'ils peuvent se compenser. Si une région a des difficultés, une autre ne l'aura pas nécessairement. Si un ménage a des problèmes, un autre ne l'aura pas nécessairement. Moi, j'ai un panier, vous voyez, ces paniers étaient importants, 2000 crédits. 2000 crédits. Mais ils avaient, et c'est ça que, c'est là, c'est véritablement, on peut demander si c'est une erreur ou une escroquerie ou quoi que ce soit, mais tous dépendaient du même facteur systématique qui était le prix de l'immobilier. Et donc, l'hypothèse a été faite, mais elle a été faite délibérément. Après, quand il y a eu les audiences au Congrès, ça a été très clair. Faites par les banques d'affaires et les agences de notation qui travaillent en symbiose pour valoriser ces produits, donc il faut valoriser ces produits, eh bien, c'est que le prix immobilier ne pouvait pas baisser sur l'ensemble du territoire américain. Donc, une baisse générale était impossible parce qu'on ne l'avait pas vu depuis la guerre. Et en conséquence, comme si vous voulez, ce qu'on appelle le record, c'est-à-dire l'historique des données qu'on utilise et que la titrisation était récente, on voyait, ce n'était pas dans les statistiques que le prix immobilier baissait. Donc, ils ont fait cette hypothèse, évidemment hypothèse dramatique, qui s'est avérée dramatique, mais c'est celle qui était à la base de l'idée mes portefeuilles, mon pooling de titres me donnent ce qu'on appelle des crédits granulaires, c'est-à-dire chaque crédit est indépendant les uns des autres ou très peu corrélé à chacun d'autre. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, mais ils ont fait l'hypothèse que les chocs qui pouvaient se produire, quels que soient les chocs qui pouvaient se produire, et ils font des simulations avant de faire ces valorisations, ils ne donnaient pas des corrélations supérieures à 30% entre les différents crédits du pool. Donc, ce n'était pas zéro, ils n'étaient pas indépendants. C'est-à-dire, au pire, ça peut être 30%, sauf que c'est monté à 90%. C'est-à-dire que tout a explosé, comme vous allez le voir. Donc, voilà, le pooling, c'est ça. On fabrique des crédits, des paniers de crédit. Deuxièmement, offloading. Alors ça, c'est évidemment une caractéristique de la régulation de la période. Les banques vont pas conserver ça à leur bilan, même temporairement. Elles vont le projeter dans des structures qu'elles vont créer et qui sont en ce qu'on a appelé des véhicules spéciaux ou des conduits. Et c'est là que le pool existe et c'est là que, en contrepartie, vont apparaître les titres. Et le tranching, ça veut dire que le pool a donc un risque et un rendement, comme si c'était un actif lui-même. Et donc, il faut que la banque d'affaires et l'agence de notation évaluent ce risque et ce rendement de pool. Et à partir de là, il fait du tranching, c'est-à-dire les obligations qu'il émet, il pourrait mettre des obligations homogènes qui sont exactement les mêmes, qui aurait le même rendement et le même risque que le pool. Mais ce n'est pas ça qu'il va faire. Il va créer une espèce de feuilleté, quoi, de titres qui auront des caractéristiques de risque différentes. C'est-à-dire qu'il va hiérarchiser les titres qui sont émis en contrepartie du pool de crédit. D'accord ? Cette subordination, à quel avantage ? L'avantage, c'est de dire, eh bien, si je subordonne, les tranches subordonnées vont être risquées. Et donc, ceux qui vont les prendre, c'est ceux qui sont des preneurs de risque, les hedge funds, par exemple. Leur travail, c'est de prendre du risque. Mais ça va protéger, comme une option, protéger les tranches supérieures. Et donc, les gros investisseurs institutionnels qui ont, eux, des engagements de retraite à leur passif, les fonds de pension, ils vont pouvoir les acheter parce que ça ne va pas être plus risqué que des titres d'État. Et donc, c'est ça, si vous voulez, la prestidigitation du processus de tranching. Et donc, voyez un exemple là. Alors, ça, c'est on appelle ça un CDO, si vous voulez, Collateralized Debt Obligation, c'est-à-dire un processus de titrisation complexe, peu importe. Vous avez un processus de titrisation qui vous donne un pool. Le pool, c'est ce qui est à gauche, là. Ici, l'hypothèse, un exemple, qui donne un exemple réel, un pool de 720 millions de dollars. Et vous voyez que la contrepartie du pool, c'est donc ces tranches, d'accord ? Et le total fait bien 720. Et vous avez donc des tranches qui vont de bas en haut. Les bas sont les plus subordonnées et en haut, ce sont les plus sûrs, quoi, en quelque sorte. Vous avez donc de ce qu'on appelle tranche equity, vous voyez qu'elle est des tranches très fines, puisqu'elle ne fait que 2% de la valeur du pool. Ensuite, tranche mezzanine, intermédiaire, 28%, et les tranches seniors et super seniors font 70%. Vous voyez qu'elles sont très grosses. Bon. Alors, regardons à quoi ça sert. Qu'est-ce que recherche finalement la banque d'investissement qui fait ça. Elle recherche un rendement sur cette opération. Donc, d'un côté, elle va elle-même et l'agence notation se faire payer ce qu'on appelle des fees, hein, c'est-à-dire des commissions. Vous voyez qu'il y a des commissions non négligeables sur un rendement total du pool qui est de 62 millions. Eh bien, il y en a 10 quand même qui partent, si vous voulez, en commission. Bon. Mais ils ne cherchent pas ça. Ils cherchent ce qu'on appelle un excess spread, c'est-à-dire un revenu net. Le revenu net, c'est ce qui va rester lorsque on aura payé tous les acheteurs des titres, hein, tous les acheteurs des tranches, avec le revenu du pool de crédit, au fur et à mesure que les intérêts arrivent de la part des ménages emprunteurs qui ont emprunté sur ces crédits. Et alors, la question importante, oui, c'est pourquoi on va tomber dans le piège. Pour avoir un excess spread suffisamment élevé, on va chercher à le maximiser. Il faut évidemment, les tranches inférieures qui sont plus risquées payent cher. Elles payent plus cher que le revenu du pool. Vous voyez que ici c'est exprimé dans la dernière colonne en point de base. Le revenu du pool, c'est-à-dire le rendement, ce qui est payé en intérêt par la totalité des crédits dans le pool, une fois qu'on a mis tout ensemble, c'est 200 points de base. 200 points de base, ça veut dire 2% au-dessus du taux d'intérêt de base, en quelque sorte. Hein. Eh bien, vous voyez que les agences... Donc, vous voyez que le travail des agences, c'est compliqué. Ils doivent déterminer la structure et les rémunérations de telle manière que le fameux excess spread, c'est-à-dire la différence de tout ça, soit maximisée. Donc, vous avez une magouille formidable qui a eu lieu. Alors, ensuite, les enquêtes ont montré à quel point les banques d'affaires et les agences étaient en symbiose totale, quoi, hein, je veux dire, c'est, pour pouvoir faire ça. Et donc, vous voyez que là, puisque les tranches mezzanines payent cher, hein, les tranches equity ne sont même pas notées, donc en fait, c'est véritablement du spéculatif. Donc, forcément, ceux qui les achètent demandent un rendement très élevé, peut-être 700 points de base. Les tranches mezzanines 475-180 et les tranches seniors sont faiblement, parce qu'elles sont considérées comme sans risque, hein, par les agences comme sans risque, donc elles sont notées très, très fort et donc obtiennent un rendement peu supérieur à celui des obligations d'État, puisqu'on dit que c'est la même notation que les obligations d'État. Alors vous voyez où est le piège, c'est que si vous voulez maximiser l'excess spread, il faut forcer, gonfler la partie senior et super senior qui paye peu pour pouvoir dégager pour vous, banque d'affaires, l'excess spread et réduire au maximum la protection. Et donc, vous aviez un truc qui fonctionnait tant que, encore une fois, le risque ne se manifestait pas de manière très importante dans le pool. Mais dès que le risque se manifestait dans le pool, entraînait, si vous voulez, immédiatement, et donc ça s'est fait finalement très rapidement, hein, je veux dire à partir du mois d'août 2007, les prix immobiliers avaient commencé à baisser déjà à partir de la fin de l'année 2006, c'est à partir d'août 2007 que la crise a commencé et qu'on s'est aperçu que ce marché se rigidifiait complètement, on ne pouvait plus faire de transactions dessus. Pourquoi ? Donc, c'est que si le risque du pool devient très élevé, il balaye très très vite les tranches de bas, hein, elles sont trop fines, il y a trop peu de crédit là-dedans, pour pouvoir protéger celles du haut. Et donc ce sont les tranches qui normalement n'auraient jamais dû poser problème, puisqu'elles étaient données triple A, qui ont rencontré le maximum de pertes. Et donc, c'est évidemment, si vous voulez, un effet catastrophique, fantastique sur les marchés financiers, sur la perception du risque, etc. Et alors, il y a une autre manière de faire pour dégager un maximum d'excess spread, c'est qu'au lieu de faire, là, je vous ai parlé d'une titrisation, hein, vous avez un pool de crédit, et puis en face, vous avez cette structure d'obligation. Mais pour gagner plus, je ne sais pas s'ils ont travaillé plus, mais en tout cas, ils ont titrisé plus. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire faire des titrisations en chaîne. Donc, vous voyez cet exemple-là. Vous partez de crédit subprime, vous les mettez en pool. Une partie très faible reste au bilan des banques. Le reste est titrisé. La première titrisation, RMBS, s'appelle RMBS, Real Mortgage Backed Securities. Ça veut dire des obligations qui sont garanties par, si vous voulez, qui font face à des pools de crédit mortgage, c'est-à-dire hypothécaires. Vous voyez qu'une partie va être achetée, et donc elle sort de la titrisation, enfin, elles sont dans la titrisation, mais elles ne rentrent pas dans la seconde. Et, c'est la tranche equity d'un côté, c'est les tranches seniors de l'autre. Mais les tranches mezzanines, disons, qui sont difficiles à acheter, eh bien, qu'à cela ne tienne, on va faire des pools de ces tranches mezzanines, considérer que c'est des crédits eux-mêmes, et hop, on recommence l'opération, etc. Et on peut la recommencer en chaîne infinie, a priori. En effet, il y a eu des CDO carrés, des CDO au cube. Bon. Ce qui veut dire qu'il devient totalement impossible de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du pool de crédit. Vous êtes tellement loin du crédit initial que vous ne savez plus évaluer fondamentalement. C'est-à-dire que fondamentalement, ce type de produit est arrivé à une complexité qui les rendait impossible à évaluer, même par les professionnels, de fait. Quand je disais le dépérissement d'informations, vous en comprenez maintenant la raison. Alors, effectivement, ici, vous travaillez ça. Alors là, vous voyez, c'est assez intéressant. C'est une simulation qui permet de montrer pourquoi ça a explosé. En effet, tel que c'est fabriqué, vous aurez compris que, finalement, vous avez le pool d'un côté. C'est de la comptabilité, hein. Il se crée rien en vérité, hein. Il se crée un ex-exprès par la manière dont on a structuré, si vous voulez, les rendements. Mais en termes de valeur, la valeur du pool est égale à la valeur de la somme des obligations qui sont émises, hein. Donc, si on fait des pertes sur les tranches structurées, la somme des pertes va être la perte du pool. Mais qui va perdre? Eh bien, vous voyez qu'ici, vous avez ce qui est indiqué à l'abscisse, c'est le tranching, c'est à combien du total du montant on dit qu'on est dans la tranche equity, dans la tranche mezzanine, etc. 0,3%, c'est la tranche equity. 3,6% du total du pool de crédit qui vient après, et jusqu'à 9,12, si vous voulez, c'est la tranche mezzanine. Ensuite, 12,22, c'est senior, et après, vous avez super senior. Vous voyez comment on a chargé super senior, 22 à 100. Suivant le degré de corrélation, qui elle-même va dépendre de l'évolution du prix immobilier. Eh bien, vous voyez où sont distribuées les pertes. Quand vous avez une faible corrélation, vous voyez le premier, je prends seulement le premier et le dernier, hein, 10%. Vous voyez que les pertes sont bien dans la tranche equity pour l'essentiel. Hein. C'est le bleu, finalement. Hein. C'est lui qui perd, c'est-à-dire vous avez 1% de pertes sur le pool, vous avez la moitié déjà qui est absorbée par la tranche equity. Et si vous regardez les tranches de droite, senior, super senior, pour 10% de corrélation, elles perdent zéro. Effectivement, elles sont protégées. Si vous passez à l'opposé extrême, 90%, c'est-à-dire le prix immobilier s'est effondré, hein, non seulement il s'est retourné, mais il s'est effondré. Eh bien, donc, corrélation massive des titres, des crédits. Peu importe qu'ils aient été individualisés à Chicago ou bien en Californie, ils dépendent du même prix immobilier, donc c'est comme si vous aviez plus qu'un seul crédit. Et un seul crédit, 100%, c'est comme si vous aviez un crédit homogène. 90%, vous vous en rapprochez. Et donc, vous voyez que ces tranches-là sont balayées immédiatement, vu la masse des pertes qui arrivent, et c'est toute la tranche super senior qui subit le tout, pratiquement. Hein. Plus de 80% de la perte est prise dans les tranches qui étaient considérées comme absolument sûres. Quand vous avez un tel choc financier, vous comprenez les conséquences que ça a sur l'attitude à l'égard du risque des opérateurs, hein, des fonds de pension, etc., qui font des pertes massives, qui ne peuvent plus payer les retraites derrière. Vous voyez les conséquences en chaîne qu'entraîne une telle catastrophe financière. Mais vous voyez la nature de la catastrophe financière et comment l'ingénierie financière et la volonté à tout prix de ce que les anglo-saxons appellent le « greed », hein, c'est-à-dire cette envie absolument du maximum de profit a produit dans la part des banques, en fait. Donc, voilà. Alors, reste l'autre aspect qui est important. Est-ce que je peux... J'ai le temps de le faire ou pas ?
5 minutes.
Ou alors, je pourrais pas le temps de le faire, parce que c'est... L'autre truc qui est important, c'est... donc là, vous avez compris l'importance du levier, de l'innovation financière, et comment est-ce qu'on aboutit à des pertes massives sur l'ensemble du système économique, hein, qui découle de ça. L'autre aspect qui est crucial, c'est la nature du risque systémique, comment il se déclenche. Il se déclenche toujours comme un risque de liquidité, le fait que oui, tous ces organismes-là, les conduits, les hedge funds, les Est-ce que je m'en vais ? Je peux dire celui-là qui vous... Oui, celui-là. Oui, oui, que quand vous avez un crédit ordinaire, c'est facile à faire le graphique, hein, vous avez une banque d'un côté, un emprunteur, et hop, il y a le crédit entre les deux. Ici, ce n'est pas ça du tout, vous voyez déjà, et encore, ce n'est pas le plus compliqué, mais vous avez bien à gauche ici les crédits hypothécaires dits non conformes, c'est-à-dire les crédits subprimes, donc les ménages qui sont à gauche. Et vous voyez à quel point, pour arriver à faire ces crédits, on a donc créé une usine à gaz, en fonction de ce que je vous ai dit, le transfert de risque. Hein. Vous avez les banques d'affaires qui font la titrisation, les conduits qui la portent. Les conduits eux-mêmes, ils ont en contrepartie un financement, hein, puisqu'ils portent des crédits. Ce financement se fait par ce qu'on appelle du papier commercial sur actif, ABCP, hein, du papier commercial qui est garanti, soi-disant, par ces fameux pools. Ils sont achetés par les investisseurs institutionnels, mais aussi par les hedge funds, pour financer, si vous voulez. Et vous avez un certain nombre d'investisseurs institutionnels, donc, qui, eux, achètent ce papier commercial. Alors, ça, c'est ce qu'on a appelé les SICAV monétaires. Hein, on a créé, malheureusement, des SICAV monétaires dynamiques, qui ont évidemment produit des désastres. Ce sont des SICAV monétaires qui, au lieu d'avoir uniquement des titres standards, si vous voulez, pour garantir les parts des déposants, eh bien, on prie de ces papiers, quoi. Ah, évidemment, on a eu des pertes fantastiques, et il a fallu les sauver comme des banques. Hein. Donc, pour vous montrer à quel point c'est un circuit extrêmement complexe, mais vous en avez vu la raison d'être. Hein. Alors, le truc que je n'ai pas le temps de vous démontrer, c'est la chose suivante. Si, lorsque se produit le développement du crédit du levier, le développement du levier se fait donc avec la hausse des prix d'actifs. Ce qui se passe, qu'on peut démontrer, c'est que la part du crédit interbancaire au sens large, c'est-à-dire l'ensemble des relations de contrepartie à l'intérieur du shadow banking, ça croît relativement par rapport à l'endettement de ces intermédiaires par l'extérieur. C'est-à-dire que le processus par lequel se fait le levier entraîne en même temps une fragilité de réseau, puisque le réseau devient plus complexe et le financement plus court. Donc on finance des produits de plus en plus finalement illiquides, puisqu'on a vu que pour avancer dans ce processus de titrisation, il fallait d'abord faire des crédits à des ménages qui étaient de moins en moins solvables. Hein, puisqu'on avait, si vous voulez, utilisé déjà les autres avant. Hein. Donc, des ménages de moins en moins solvables intrinsèquement, sans revenus, avec des revenus très faibles. Donc, on avait des titres qui étaient en fait illiquides, fondamentalement, et très risqués. Et on les finançait au fur et à mesure que le processus de spéculation augmentait avec des dettes très courtes, pour pouvoir, évidemment, obtenir un gain, encore une fois, d'intermédiation maximum de la part des intermédiaires. Ça entraînait une densification du réseau, on peut le démontrer, et donc le risque de contrepartie qui est essentiel dans le risque systémique. Si vous voulez, lorsque vous avez un tel réseau de relations de marché où il n'y a pas de dépôt derrière, hein, il n'y a pas de source de liquidité qui sont des sources sûres, et où toute la liquidité est obtenue par des emprunts de court terme dans le marché monétaire, souscrits encore une fois par des fonds communs de placement. Ce que vous avez, c'est une fragilité systémique. Si tout se passe, si vous avez une interruption du réseau à un moment donné, par le fait que certains acteurs, les conduits en l'espèce en question, hein, ne peuvent plus financer les portefeuilles d'obligations qu'ils ont transitoirement, ils n'ont pas eu le temps de les vendre aux investisseurs institutionnels finaux, vous avez en quelque sorte comme l'interruption d'un circuit électrique. Hein. Et quand un circuit électrique se coupe à un endroit, il s'effondre complètement. Alors, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Le fait qu'il ne se soit pas effondré effectivement complètement, c'est parce que les banques centrales l'ont pris en charge. Et donc, vous avez la prise en charge par les banques centrales du total. Donc ça peut être démontré, je n'ai pas le temps de le faire. Et j'aboutis au dernier, donc c'est ça, il y a une démonstration mathématique un peu, mais enfin, de ce que je vous dis. Hein. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver ici aux conclusions qu'on peut en tirer. Donc, pour prévenir, ce qu'on veut, c'est prévenir le risque systémique qui découle de ce processus. puisque finalement, il aboutit à mettre en cause l'ensemble de l'économie. Il menace toute l'économie. Ça aboutit au chômage, finalement, si vous voulez. C'est la caractéristique d'une crise systémique. Donc, ce qu'il faut, d'après tout ce qu'on a vu, il suffit d'en tirer les conséquences, modérer les fluctuations du levier et de la taille des bilans au cours de la phase un peu euphorique du cycle. Quand les choses vont bien, commence à prendre racine ce processus de valorisation des prix, et la valorisation des prix des actifs commence à se à déraper par rapport à ce qu'on pourrait appeler la santé économique de l'économie, la rentabilité du capital productif, effectif, dans ces opérations de production de valeur réelle. C'est le levier qui on a vu, qui le permet. Et donc, il faut pouvoir limiter les fluctuations du levier et de la taille des bilans des opérateurs, ce qui veut dire, c'est ce qu'on appelle la régulation contracyclique du crédit. C'est-à-dire, la banque centrale ne peut pas le faire uniquement par le taux d'intérêt. Elle doit pouvoir utiliser des outils de type quantitatif qui permet de maîtriser la progression du crédit. Vous voyez, c'est le fait que le crédit se met à déraper beaucoup plus vite que la valeur ajoutée produite par l'économie. Donc, il faut, pour éviter ça, il faut que les banques centrales modifient leur doctrine, qui était ne jamais s'occuper de ce qui se passe dans les marchés financiers, ne s'occuper que du niveau des prix des biens. Or, c'est ce qu'on a vu, cette dynamique-là est indépendante des prix des biens. Ce n'est pas l'inflation des prix des biens qui a entraîné le processus. L'inflation a été la plus basse possible depuis des décennies dans les années 2000, pendant que se faisait ce dérapage. Donc, il faut que la Banque centrale, si elle s'intéresse à la stabilité financière, s'occupe directement du crédit, du montant du crédit, de là où il tente à être excessif, et par conséquent, ait des outils quantitatifs qui viennent compléter l'usage du taux d'intérêt. Et donc, c'est ce qui est aujourd'hui en débat, comment la politique monétaire doit se modifier pour prendre en compte la stabilité financière. Deuxième élément, l'idée de mismatch a été très importante, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, ces acquisitions de produits titrisés, ce qu'on appelle les crédits structurés, a été fait avec des financements par dette de plus en plus courts. Les organismes qui faisaient l'opération d'acheter ces crédits pour les revendre, ils étaient financés pour porter ces crédits à leur actif par un endettement extraordinairement court. Ce qui était ces fameux papiers commerciaux garantis par les actifs, ABCP. Et donc, ce qu'il faut, c'est obliger... donc, il y a un mismatch, comme on dit, un mismatch d'échéance. C'est très dangereux de financer des actifs de liquidité finalement douteuse quand les conditions commencent à se retourner par des dettes très courtes. Là, vous êtes complètement étranglé, parce que vous n'avez plus le moyen, si vous voulez, de payer vos dettes. Donc il faut faire un mark-to-funding, comme on dit, c'est-à-dire pouvoir forcer les opérateurs de marché, alors ils gueulent les banques là-dessus, c'est en effet quelque chose qui est dans la nouvelle régulation Bâle III, forcer à ce qu'elles adossent leurs créances à des dettes d'échéance du même niveau, suffisamment proche, pour pouvoir être couverte par rapport à un infarctus de la liquidité, quelque chose qui brutalement disparaît. Si vous avez déjà un matelas, de cash qui vous vient d'obligations que vous avez achetées, que vous n'avez qu'à rembourser progressivement dans le temps, vous pouvez faire face au choc beaucoup mieux que si vous êtes immédiatement étranglé, parce que vous devez renouveler immédiatement votre dette et vous ne pouvez plus. Donc, c'est le deuxième élément. Vous voyez, ça résulte directement de ce qu'on a dit. Troisièmement, c'est ce problème de chaîne d'intermédiation. J'ai pas eu le temps de le démontrer, mais je vous en ai donné le résultat. C'est tout à fait, si vous voulez, ça n'a absolument aucun intérêt économique. C'était uniquement pour dégager finalement une rente sur tout le reste de l'économie par cet ensemble, cette nébuleuse de prêteurs, de shadow banking. Cette complexification n'a été liée qu'à ça. qu'au phénomène de dégager le maximum d'excess spread, etc. Et ben, il faut supprimer ça. Il existe, il faut comprendre que, et ça pour l'instant on ne l'a jamais fait, que l'innovation en finance peut être extrêmement nocive, de la même manière que vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle molécule sur un marché des produits médicaux, quoi. Et qu'il devrait y avoir une évaluation et des simulations a priori des nouveaux produits pour pouvoir en tester, si vous voulez. Si on avait testé ça dans les conditions extrêmes, à l'avance, on aurait vu que ce type de titrisation pouvait faire exploser, si vous voulez, par le fait que les pools de crédit devenaient très corrélés, faisaient complètement exploser le risque sur les tranches les plus avancées. Ça n'a jamais été fait. La titrisation en finance est considérée comme étant automatiquement favorable. Et le dernier élément, donc ça c'est un truc très important, et il existe aujourd'hui des catégories de titres qu'on appelle « covered bonds », qui permettent d'avoir une sécurité suffisante parce que les banques doivent les garder à leur bilan, qu'elles sont couvertes par des actifs de haute qualité vérifiés et qu'en cas de remboursement de la part des investisseurs institutionnels qui les achètent, elles ont une priorité par rapport à d'autres catégories de titres. Donc, oui, j'arrête. J'arrête, puis c'est le dernier. Le dernier élément, vous voyez, c'est ça, les chaînes de transactions de gré à gré, dont on a vu qu'elles ont entraîné une déperdition massive d'informations, elles doivent être remplacées par ce qu'on appelle des marchés organisés, avec des chambres de compensation qui font de toute façon la compensation du risque et qui surveillent le processus et qui pourraient arriver à réduire. Donc il y a des solutions à ce type de problème, mais ces solutions supposent évidemment que le lobby bancaire puisse être maîtrisé par les régulateurs publics.